Vous êtes bien sur Radio Campus et ses travers sur le 106.6 jusqu'à 14h. Dans quelques instants, nous écouterons la diffusion d'un entretien que j'ai réalisé en mars 2013 lors de l'Île Art Fair avec Claude Mollard, artiste, haut fonctionnaire, ingénieur culturel et auteur avec Franz Kratzberg, qui fête en avril ses 92 ans, du nouveau manifeste du naturalisme intégral paru aux éditions Critère. Le travail photographique de Claude Mollard est lié au concept d'origène, nom qu'il donne au visage qu'il perçoit dans la nature, qu'il regarde avec une curiosité bienveillante. On écoute Claude Mollard. Claude Mollard, bonjour.
Bonjour.
Alors, si vous avez intitulé votre livre « Nouveau manifeste », cela laisse supposer qu'il y a un manifeste plus ancien, celui de Pierre Restany, par exemple.
Oui, c'est celui de Pierre Restany, mais également de Franz Kratzberg et Sepp Banderek. Ces trois personnes se sont retrouvées en 1978 sur le Rio Negro, en amont de l'Amazone, et on fait une expérience un peu existentielle de la nature qui a été à l'origine de ce premier manifeste de 1978, qui a eu un certain retentissement, mais pas autant qu'on pouvait l'espérer, parce que sans doute les trois hommes étaient-ils en avance sur leur temps, et que relier la question de la création artistique à la celle de la sauvegarde de la planète était à cette époque-là encore peu présent dans les consciences du monde.
Alors 1978-2013 sont donc deux dates importantes pour l'art et ses rapports avec l'environnement. Que s'est-il passé entre-temps pour que les choses changent ?
Alors il s'est passé deux choses. Du côté des artistes. Les artistes sont souvent des éclaireurs, sont souvent même des prophètes. Ils sont en avance sur leur temps. Du côté des artistes, un certain nombre d'entre eux se sont engagés dans la nature, dans la création art-nature, comme Pennon, pour prendre les plus célèbres, ou comme Niels Udo, pour prendre deux artistes célèbres. Mais des dizaines, des centaines, des milliers d'artistes travaillent aujourd'hui sur la question de la nature, sur la question également derrière la nature, de la protection des minorités, des ethnies, de la diversité. Une exposition comme Les Magiciens de la Terre, faite au Centre Pompidou en 1989, sous la houlette de Jean-Hubert Martin, a été une étape importante dans cette prise de conscience des artistes, c'est-à-dire mettre en relation les artistes contemporains et les artistes primitivistes, c'est-à-dire ceux qui au fond, sont issus de la nature et restent encore complètement pris dans la nature. Pour prendre un exemple, les artistes aborigènes sont arrivés à la conscience à cette époque. Et d'ailleurs, dans cette foire où nous sommes, il y a une galerie aborigène qui présente le travail de ces artistes australiens arrivés en Australie il y a 50 000 ans, bien avant les Européens, ça va sans dire. Donc, il s'est passé des choses comme ça. Il s'est passé la prise de conscience que l'art pouvait retirer énormément de formes d'inspiration, de créativité, des formes les plus primitives de la nature ou des formes les plus primitives de la création ancestrale. Donc je donne ces quelques exemples. Et aujourd'hui, une association dont on parlait, comme COAL, qui réunit des dizaines d'artistes, jeunes artistes contemporains, continue ce travail. Franz Kratzberg a été le précurseur, l'initiateur, le premier. Nous avons la chance de l'avoir encore parmi nous. Il a fêté ses 92 ans, une vie fort remplie et même parfois dramatique, mais qui a été une leçon de sagesse et en même temps de vitalité, d'expression, de volontarisme, de survie, d'engagement, donc une vie très très forte, très exemplaire, et dans sa suite, une génération ou même des générations d'artistes qui ne font qu'élargir la trace qu'il a lui-même initiée. Je m'inscris dans cette trace, bien entendu, à ses côtés, et ça c'est la première chose. La deuxième chose qui s'est passée dans ces 35 ans, c'est que la conscience mondiale s'est développée par différents moyens. D'une part, les forces politiques écologiques, d'autre part, malheureusement, des catastrophes. Il faut de grandes catastrophes pour que les êtres humains commencent à envisager de prendre des décisions concernant le devenir de la planète, qui est notre bien commun le plus cher, et le plus essentiel. Et donc, il s'est passé ce phénomène de prise de conscience avec un divorce entre la conscience des politiques et la conscience des opinions publiques. Les opinions publiques sont certainement plus avivées, plus engagées, plus averties aujourd'hui que les consciences politiques qui, comme tout engagement politique, essayent de monnayer les soutiens qu'elles peuvent avoir par des mesurettes, un peu plus de vélos, un peu moins de voitures à l'essence, croyant ainsi résoudre des problèmes qui sont d'une toute autre ampleur. Hein, la planète, le réchauffement de la planète, on le lisait hier dans Le Monde, n'a jamais été aussi brutal qu'au cours des 10 dernières années, depuis 10 000 ans. Donc, ces deux phénomènes, opinion publique, prise de conscience artistique, des artistes eux-mêmes, fait que nous avons ressenti le besoin, 35 ans après le premier manifeste, de publier un nouveau manifeste du naturalisme intégral. C'est-à-dire, quand on dit naturalisme, c'est-à-dire les formes d'expression de la nature, quand on dit les formes, c'est une esthétique, mais pas uniquement, c'est les formes en soi. Et deuxièmement, on dit intégral parce que on considère qu'on ne peut pas y toucher, que c'est un tout, c'est un ensemble, et que tout ce qui porte atteinte est à condamner. Voilà, donc, et on considère que c'est à la fois la sauvegarde de la planète, c'est la sauvegarde d'un réservoir de formes qui est donné, mais qui en même temps s'invente chaque jour. Il ne faut pas croire que l'évolution a cessé depuis Darwin, mais elle continue. Et donc il y a de nouvelles espèces qui naissent sous nos yeux, qu'elles soient végétales ou animales. Et puis il y a en même temps ce phénomène de simplification, d'appauvrissement du nombre des formes à la fois végétales et animales. Donc on est dans un monde qui tente à s'appauvrir en forme, et au fond, on se rattache assez bien à cette analyse de Claude Lévi-Strauss, qui reste un maître hein, pour nous tous, qui disait au fond, il en va de la nature comme pour les langues qui sont pratiquées dans le monde. Il y a 50 ans, 3000 langues. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2000. Demain, il n'y en aura plus que 1000. Un jour, tout le monde parlera anglais ou chinois.
Alors ce sont les fondements immémoriaux de l'homme que vous recherchez dans la nature, ces fameuses racines qui se nourrissent de rituels?
Oui, moi, les fondements auxquels je fais référence avec Krasberg, c'est au fond, d'où vient l'homme? Qu'est-ce qui fait que l'homme devient homme? On sait, on parlait d'évolution, d'évolutionnisme, mais l'évolutionnisme le plus important, c'est celui qui transforme l'animal en homme. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un grand singe, un gorille d'aujourd'hui et un homme? C'est une question de conscience. Alors, beaucoup d'hypothèses ont été faites sur les raisons par lesquelles l'homme est devenu un bipède, un homme ayant un cerveau d'une certaine taille, une certaine forme. Bon. Mais je crois que la chose première, au fond, c'est la question du regard. La question du regard est intéressante parce que c'est le sens qui se développe parmi les sens les plus essentiels, comme le toucher, comme l'odorat, comme l'ouïe. Le regard est celui qui se développe le plus lentement. De même que l'homme est l'être qui se développe le plus lentement par rapport à toute l'espèce animale, toutes les espèces animales. Donc c'est intéressant, les choses les plus perfectionnées supposent une maturité, un mûrissement. Donc la question du regard me paraît essentielle dans l'explication de l'intelligence. Et donc je pense que l'homme qui regarde la nature, qui est d'abord enfoui dans la nature, qui fait partie de la nature, qui est un animal particulier mais un animal, va s'extraire de cette gangue grâce à l'exercice de son regard sur la nature elle-même. Et à force de l'observer, ne serait-ce que pour subsister, c'est-à-dire guetter, pour tuer, pour manger, pour subsister, pour se défendre, l'homme est d'abord un guetteur, un observateur. Il sait tout de la nature et il voit très bien dans la nature le reflet de son propre visage. Et le jour où un grand singe reconnaît dans un tronc d'arbre quelque chose qui lui parle du visage de son père ou de sa compagne, il se dit « cela est » et en même temps « cela n'est pas ». Ça veut dire que cela ressemble à. Et donc, il fait action de mimétisme. Et le mimétisme, c'est l'exercice premier de la conscience. C'est comparer ceci et ceci, ceci et cela. Et c'est Aristote qui nous apprend ça. Hein. A égale A. B égale B, A différent de B, etc. Et donc, il compare et il regarde ce qui est, ce qui n'est pas. Et donc, du coup, il doute. Cela est, cela n'est pas. Qu'est-ce que c'est ? Point d'interrogation. Donc, il s'interroge. Et ce doute fondamental lié à l'observation de sa propre image dans la nature va faire qu'il va s'extraire de la nature, prendre une distance avec elle. Et cette prise de distance, ça s'appelle la conscience. Et la conscience, c'est ce qui fait que l'animal devient homme. Donc je pense, c'est pas la seule explication, mais dans la conception de mon art, comme dans celle que nous exprimons dans le manifeste du naturalisme intégral, nous mettons vraiment une sorte d'accent singulier, particulier, sur la définition de l'art à partir d'un exercice du regard sur les choses. Pour nous, l'art est d'abord une captation, c'est d'abord un exercice de la vision. C'est la prise en compte du sens même de la nature qui vous environne. C'est l'exercice d'un dialogue avec elle. Et en même temps, c'est les retrouvailles avec tous les mythes fondateurs de l'humanité. Là, je réponds directement à votre question, c'est-à-dire c'est la naissance du totémisme. C'est-à-dire que l'homme va intégrer la nature avant de devenir homme. Il va devenir léopard pour avoir l'agilité du léopard. Il va devenir lion pour acquérir sa force. Il va devenir éléphant. Il va devenir fourmi. Il va devenir toutes sortes d'insectes. Il va devenir des arbres. Il va donc développer ce qu'on appelle l'animisme. Et donc, lui sera une des âmes parmi ces âmes de la nature, parmi ces esprits de la nature, mais il sera un esprit supérieur. Parce que il va, au fond, les inventer, ces esprits, puisqu'il va leur donner quoi ? Il va leur donner un nom. Et donc, il va développer l'exercice de sa parole. Et qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, sinon l'exercice de la parole ? Et donc, la parole, c'est l'expression de la conscience qui naît de l'exercice du regard. Et donc, c'est ce qui fait que le grand singe devient finalement un homme. Et donc, l'art que nous pratiquons est un art qui, au fond, est complètement plongé dans ses racines et que nous retrouvons en essayant de développer de manière mimétique l'exercice du regard qui était celui de ces primates au moment même, pendant les millions d'années ou les centaines de milliers d'années, où ils sont progressivement devenus des hommes. Donc nous, grâce aux outils contemporains, photos, numériques, etc., nous essayons de reproduire, de nous immerger dans cette nature, d'où nos voyages dans les forêts primordiales ou dans les sommets les plus lointains, souvent dans des lieux qui ont été fréquentés par des hommes préhistoriques. Le goût que nous avons pour des lieux qui sont des lieux dont on sait qu'ils ont connu un habitat préhistorique, par exemple des grottes ornées en France, qui sont très riches en origines, comme je les appelle, ou des lieux antiques, ou les volcans. On sait très bien que l'homme a trouvé le feu au pied des volcans ou à la tête des volcans. Et donc, ce n'est pas par hasard si je fais un travail photographique sur Pompéi et en même temps sur le Vésuve. Parce qu'il y a toute une relation de connivence et en même temps de rivalité entre l'homme de Pompéi, l'homme cultivé de Pompéi, hein, quelques siècles avant cette ère, l'ère chrétienne, et puis les monstres infernaux, c'est le cas de le dire, que l'on trouve dans la lave du volcan. C'est une relation comme ça, très, très ambiguë, liée au feu, et le feu devenant lui-même, dans la mythologie grecque, l'outil de la création artistique. C'est par le feu qu'on transforme la terre en poterie, en céramique, et donc en sculpture. La première sculpture vraiment créée de l'homme, elle vient de la transformation de la terre. La première sculpture, c'est l'objet cueilli. Donc nous travaillons sur cette relation entre la cueillette, au fond, nous sommes des cueilleurs, des artistes cueilleurs. Nous cueillons des sens, des formes, des interprétations qui nous sont propres dans les formes de la nature. Pour moi, ce sont des visages, ce sont des corps humains. Nous les cueillons, donc de manière très discrète. Donc, d'une certaine manière, on touche à rien, puisque c'est la photo qui fait œuvre. Et c'est le regard qui transforme en quelque sorte, ou qui cueille. Et après quoi, nous mettons ça en relation avec toutes les forces qui contribuent à cette transformation ou qui luttent contre elle. D'où par exemple tout un travail que j'ai pu faire sur Pompéi, détruite par les monstres du Vésuve, par le feu. Le feu est à la fois celui qui détruit et celui qui permet de construire.
Alors finalement, avec Franz Kreisberg, vous êtes un petit peu des artistes chamanes.
Oui, on ne renonce pas du tout à cette qualification. On va même plus loin. On pense que, c'est peut-être grave ce que je vais dire, mais je le crois vraiment profondément, que les monothéismes, longtemps présentés, notamment dans la formation que j'ai pu acquérir dans ma jeunesse, les monothéismes contribuent largement à la destruction de l'espèce humaine. Je veux dire par là que quand on lit l'histoire des guerres depuis 2000 ans, depuis que le monothéisme existe, ce sont des histoires sanglantes. Inutile de parler des guerres de religion. On a mis longtemps à découvrir la laïcité. Et donc, libre à chacun d'exercer ses propres croyances. Mais je veux dire que le monothéisme fixant les règles de la vie sociale est l'une des causes des destructions les plus sanguinaires de l'humanité. On le voit d'ailleurs encore de nos jours. C'est très présent. C'est même un des problèmes du 21e siècle. Alors que le chamanisme, c'est-à-dire le polythéisme d'une certaine manière, bon, il est beaucoup plus personnel aujourd'hui. Je veux dire que nous n'avons pas la pression des tribus. Nous n'avons pas la pression des coutumes. Nous sommes dans la position que Malraux a bien décrite. C'est-à-dire que nous sommes dans le musée imaginaire. Nous avons accès à toutes ces connaissances, à toutes ces références. Donc nous avons une liberté extraordinaire. Donc du coup, nous pouvons créer chacun notre propre paradis. Et donc de ce point de vue-là, nous sommes des créateurs de chamans. Nous sommes des créateurs d'esprits. C'est pour ça que j'appelle mes photos origines, c'est-à-dire les esprits de la nature, les esprits des origines.
Est-ce que l'alliance de l'éthique et de l'esthétique est possible ?
Est-ce que là ?
L'alliance de l'éthique et de l'esthétique.
Oui, d'une certaine manière, parce que pour moi, je veux dire, à partir du moment où on met la nature au premier plan, on se soumet à sa loi, et en particulier à la loi de son respect. Je veux dire, la nature n'est pas un absolu en soi. Je veux dire, la nature peut être sauvage, elle peut être terrible, les animaux entre eux ne se font pas de cadeaux, donc la nature est elle-même grosse est elle-même sanguinaire, d'une certaine manière. Chacun se nourrit du dépeçage de son voisin. Bon, mais l'homme le fait aussi. L'homme se nourrit des bœufs et même parfois des chevaux, peut-on dire. Mais l'homme se nourrit de l'animal. Il tue pour vivre. Donc, et les animaux tuent pour vivre ou pour survivre. Donc, la nature n'est pas en soi morale. C'est une donnée. C'est une. Elle naît, elle se développe, elle meurt. Elle est soumise à la destruction des autres, à la rivalité. Mais ce que je viens de dire là, c'est propre à l'espèce humaine. Je n'invente rien. Donc, l'éthique se trouve plutôt dans une attitude de respect vis-à-vis de cette nature, dans la mesure où la pratique de l'homme aboutit à, d'une part, soit à la détruire purement et simplement, à la rayer de la carte, soit à l'appauvrir, c'est-à-dire à la résumer à quelques unités, à quelques essences, animales ou végétales, ou minérales, à quelques essences qui seraient acceptées, agréées, parce qu'au fond, elle serait facile à utiliser. Et donc, j'ai bien dit le mot « utiliser », dire que si l'homme fait de la nature un instrument à sa dévotion, eh bien, il la détruit. Il la détruit. Donc, l'éthique, pour moi, c'est ce respect vis-à-vis de l'ordre de la nature et surtout de sa diversité. Alors, on peut ordonner la nature, c'est la question des jardins. On peut l'ordonner aussi, c'est la question de la taille. Il y a même parfois une nécessité vitale pour l'homme d'intervenir dans la croissance d'un arbre. Par exemple, dans la forêt de Crashberg, où il n'intervient pas du tout, certains arbres sont brûlés de l'intérieur par les termites et un beau jour s'écroulent en poussière. Donc, faut-il protéger les arbres des termites ou faut-il laisser les termites se nourrir des arbres ? Donc, on s'aperçoit qu'il y a une question d'équilibre dans laquelle, si l'homme est simplement témoin, on peut voir disparaître. Mais en même temps, un arbre qui s'écroule, j'en ai vu, d'une simple poussée, parce qu'ils étaient un amas de poussière, finalement, vont faire un terreau duquel va pousser un nouvel arbre. Donc, ne pas intervenir, d'une certaine manière, c'est laisser les forces de la vie s'exprimer. Et je pense que nous sommes issus de cet ordre-là. Et donc, la première éthique, le premier acte de l'éthique qui doit nous gouverner, c'est de respecter cet ordre et de favoriser le maintien de sa diversité et même la poursuite de sa diversité, parce que la nature ne s'arrête pas.
Quels sont les rapports entre les artistes et les écologistes ?
Je dirais qu'il n'y a pas de rapport, au double sens du terme. Les uns et les autres ne sont pas comparables et les uns et les autres n'ont pas de commerce entre eux. Donc, il n'y a pas beaucoup de rapports. Mais d'une manière générale, les écologistes ne se soucient pas de l'art. Avez-vous vu jamais des écologistes dire « Voilà, nous trouvons très belle cette chose, cette œuvre d'art, etc. » C'est étranger à leur pensée. Les écologistes pensent, certes, nature, planète, mais comme je le crois, un peu de manière technicienne. C'est-à-dire, je vais prendre des moyens, moi, homme intelligent, je vais prendre des mesures techniques qui vont résoudre le problème. Mais c'est confondre la fin et les moyens. Le fin du fin, c'est quand même de replacer les choses dans le bon ordre. Et donc, bien entendu, l'homme est premier. C'est-à-dire que si une forêt ne doit pas être détruite, c'est parce que cette forêt abrite une population. Et donc, on peut dire il est bon écologiquement de faire un barrage pour apporter de l'eau à une population, une eau propre, ou que sais-je. Et donc l'écologiste dira « je suis pour faire un barrage ». Mais en même temps, l'écologiste dira « je suis complice », ou il ne le dira pas, mais de facto, je suis complice du changement que j'apporte au mode de vie de la population concernée. Inversement, l'écologiste va dire « je suis contre l'exploitation du gaz de schiste parce que effectivement, ça peut provoquer des dégâts, mais dans le débat français actuel, il s'oppose à toute expérimentation. Or, la France a la chance d'avoir beaucoup de gaz de schiste. » Donc, je veux dire, il y a une sorte de simplisme que nous, artistes, avons tendance à dénoncer de la part du raisonnement écologique. Simpliste parce que la politique ne se réduit pas à l'écologie et qu'on a besoin de ressources, on a besoin d'énergie. Et donc, il ne suffit pas de prendre des mesures techniques, il faut également replacer ça en termes de signification, du sens de la vie, des relations avec les êtres, de qu'est-ce que c'est que la qualité de la vie. Bon, c'est pas uniquement faire du tourisme à bicyclette. je veux dire, c'est s'interroger sur les causes. Les causes profondes sur le sens de la planète, etc. Et je suis frappé par l'absence de réflexion sur ce sujet-là. Au début de l'écologie, d'ailleurs, il y avait beaucoup plus, je pense à René Dumont et quelques autres qui posaient vraiment la question philosophique de la nature et de la planète. Aujourd'hui, on est descendu à un niveau beaucoup, beaucoup trop technique, si bien que les conséquences, c'est que les écologistes n'arrivent pas à exister au plan politique. Regardez l'Allemagne, regardez la France, et où ils vont en politique pour un siège, on le voit bien. Donc ils n'arrivent pas à être crédibles sur le plan politique parce qu'ils n'ont pas une vision globale. Et donc ils n'ont pas de solution globale, ils ont des palliatifs. Voilà.
Finalement, les artistes ont une vue plus intéressante sur la question. À propos d'artistes, votre avis sur l'art contemporain, qui, comme vous le dites, n'est plus qu'une marchandise cotée?
Oui, il a tendance à n'être plus que ça, c'est vrai, dans la mesure où il devient objet de spéculation. Tous les artistes ne sont pas à mettre dans le même plat. Hein. Mais certains, c'est vrai, transforment leurs ateliers en entreprises, font carrière en 10 ans... sont directement liés à des marchands, lesquels marchands achètent très cher les œuvres, puis les exposent, puis les revendent, etc. Donc on voit apparaître toute une spéculation qui fait le tour du monde d'ailleurs, parce que c'est à Basel, puis ensuite ça va à Miami, puis ensuite ça va en URSS, enfin en Russie maintenant, puis en Chine, puis en Inde, etc. Donc on se rend bien compte que l'art se développe aujourd'hui là où les pays sont prospères. Alors c'est intéressant de voir pourquoi. La France était la capitale des arts au monde jusqu'en 40. La défaite a porté un coup fatal et le relais a été pris par les États-Unis. Pourquoi? Si on interprète bien les choses, les États-Unis sortent de la guerre en 44, 45, comme la première puissance économique mondiale. Mais il leur manque un rayonnement qu'ils vont trouver dans la culture et dans l'art. Et donc, d'où l'école de New York, d'où un investissement, y compris de l'État fédéral, à l'époque de Roosevelt en particulier, pendant la guerre, en direction de l'école de New York, d'où l'apparition des Pollock et autres. Et donc, les artistes américains, finalement, vont se distinguer des artistes européens, et notamment français, par le fait qu'ils vont utiliser la grande dimension. Bon, je simplifie, mais c'est un peu ça, quand même. Et donc, ils vont faire des grands formats, ils vont faire des grandes sculptures, parce qu'ils sont dans un grand pays, je veux dire, en surface, et ils sont dans les grands espaces. Et ils ont beaucoup d'argent. Bon. Alors que nous, les Français, on fait des 80 figures. Eux vont faire des 150 et des 200 figures. Donc, voilà. Et aujourd'hui, ben, on voit le même phénomène avec les Chinois. Ils ont de l'argent. Je suis allé à Hong Kong il n'y a pas très longtemps, ou à Singapour. Bon, ben, les entreprises ont réussi, elles sont prospères. Et donc, les chefs d'entreprise commencent à se dire, et les pays eux-mêmes, les responsables politiques, il nous manque quelque chose, ce supplément d'âme qui fait qu'au fond, on va mettre la Chine à la mode. Et ça, qu'est-ce qui va permettre de le faire, sinon l'art? Et donc, venez par ici, les artistes, ou promouvons nos artistes et En quelques années, on pense transformer des artistes moyens en grands artistes parce que leur cote va augmenter. Et donc, on voit ce système de promotion de la réussite économique des pays à travers l'art qui profite, c'est très bien, d'une certaine manière, à certains artistes, mais qui en même temps entraîne un maelstrom de spéculation artistique qu'on n'avait jamais connu au XXe siècle. Et qui donc aboutit à créer des valeurs un peu artificielles, des valeurs de mode, des valeurs du court terme. On prend un artiste, puis on le jette une fois qu'il est passé de mode. Donc l'artiste devient une sorte d'instrument, comme une valeur boursière. Je vends, j'achète quand c'est bas, et puis je revends quand c'est cher. Et puis je laisse tomber quand ça ne me sert plus à rien. Donc l'artiste devient un moyen, et l'art aussi. Alors heureusement, à côté de ce mouvement général, il y a de très bons artistes qui travaillent très sérieusement, qui sont dans les ateliers, qui vendent bien ou pas bien, qui ont des difficultés ou pas de difficultés. Bon, il y a des galeries qui sont des bonnes galeries, qui font un travail honnête, etc., et qui sont en dehors de ce maelstrom un peu spéculatif, très spéculatif même parfois. Mais il est frappant de voir que les grands pays prospèrent. Les grands pays capitalistes, même s'ils s'appellent communistes, mais les grands pays capitalistes, États-Unis ou Chine, bientôt Brésil, investissent beaucoup dans l'art pour se faire une sorte de virginité et d'image fréquentable.
Claude Mollard, merci.